Pour son centenaire, le Parti communiste chinois ne veut plus de pauvres. Par Gilles Ten. Lu par Arnaud Romain. Chronique. Nous sommes convaincus que nous pourrons, dans les délais prévus, parachever l'édification de la société de prospérité modérée et sortir de la pauvreté tous les habitants ruraux vivant sous le seuil de pauvreté. Ce passage du discours de Xi Jinping à l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre dernier a reçu moins de couverture dans la presse internationale que celui annonçant la neutralité carbone en 2060. Il est néanmoins bien plus important pour le régime, car il l'engage aujourd'hui, et non pas dans 40 ans, lorsque la plupart des dirigeants actuels seront sans doute décédés. La suppression de la pauvreté absolue et la transformation de la Chine en société de prospérité modérée, Xiaokang Shehui en mandarin, en 2020 sont des objectifs fixés par le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, pour permettre de célébrer le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois en grande pompe en 2021. Dès sa prise de pouvoir, le secrétaire général du parti, Xi Jinping, a fait de la campagne contre la pauvreté l'un des principaux outils de légitimation de son pouvoir. Selon Willy Lam, professeur à l'université chinoise de Hong Kong, la machine de propagande du parti va sans doute organiser une grande cérémonie d'ici la fin de l'année pour célébrer un autre succès surhumain de Xi Jinping. Faire passer tous les Chinois au-dessus du seuil de pauvreté, même si les autorités chinoises placent ce seuil au-dessous de celui fixé par l'ONU. Cet événement s'inscrit dans le culte de la personnalité développé par Xi depuis sa prise de pouvoir, et la lutte contre la pauvreté fait partie des arguments qu'il entend donner pour rester au pouvoir au moins 10 ans après le 20e congrès, qui doit se tenir en 2022. Par la même occasion, cela lui permet de montrer qu'il met en œuvre l'adage maoïste qui veut que le parti serve le peuple. L'importance de cette question se reflète dans la place que lui donne l'appareil de propagande. En pleine crise liée au coronavirus, le quotidien du peuple n'a pas hésité à faire sa une sur le caractère d'homme du peuple du secrétaire général en publiant une série rétrospective sur ses visites dans les zones rurales alors que le pays avait d'autres préoccupations. Récemment, malgré l'augmentation du chômage et les inondations qui ont ravagé les provinces de Hubei et du Sichuan, le gouvernement a réitéré que l'objectif serait atteint. Sur le terrain, les budgets spéciaux réservés au développement des infrastructures, notamment routières et ferroviaires, pour désenclaver les zones rurales et montagneuses de l'ouest du pays, ont été débloqués ces dernières années. Des armées de cadres locaux, 2,9 millions selon les chiffres officiels, ont été déployées dans les villages pour réaliser l'ambition de Xi et aider les gens à passer au-dessus du fatidique seuil de pauvreté. Les habitants de villages entiers dans les zones considérées comme dangereuses ou trop reculées ont été relocalisés dans de nouveaux immeubles en périphérie des villes. Au passage, on s'assure bien de leur fournir des posters à l'effigie de Xi Jinping pour décorer leur nouveau logement. La pression exercée sur la base de l'appareil administratif pour atteindre les objectifs fixés est toujours aussi forte. Des listes de « familles à sortir de la pauvreté » ont été établies, la porte de leur maison marquée d'un signe pour mieux les identifier. Rien que dans la préfecture montagneuse de Liangshan, au Sichuan, où Xi Jinping s'est rendu en 2018 après avoir vu à la télévision la dureté des conditions de vie des habitants, 115 milliards de yuan, 14,3 milliards d'euros, ont été officiellement dépensés depuis 2016. Les problèmes subsistent néanmoins. Outre la corruption, toujours endémique, le plus commun est lié à la difficulté de définir ce que constitue une famille pauvre. Le point de départ de l'enquête est, en général, le livret de résidence, hukou, sur lequel sont souvent inscrits des membres de la famille qui ne vivent plus sous le même toit. Il n'est pas rare que 3 générations d'une même famille soient inscrites sur un seul hukou, même si les plus jeunes sont partis travailler en ville, parfois à des milliers de kilomètres du village. L'enquête qui établit qui est pauvre et qui ne l'est pas a souvent été faite au début de la campagne, en 2013-2015 et est accompagné d'une date limite pour sortir les personnes identifiées de la pauvreté. Dans ces conditions, les cadres locaux n'ont pas intérêt à allonger la liste à mesure que la date fatidique approche. Pourtant, comme l'explique Willy Lam, le phénomène de retour à la pauvreté est très répandu dans les zones les plus pauvres de Chine. Les bonnes années, les paysans des provinces de Gansu, du Ningxia ou du Guizhou sont peut-être au-dessus du seuil de pauvreté, mais il suffit que la croissance baisse, comme cette année, pour qu'ils repassent en dessous. Certains dirigeants du parti, et pas les moindres, tentent de modérer la vision triomphaliste de l'appareil de propagande sur la capacité de la Chine d'atteindre une société de prospérité modérée d'ici à la fin de l'année. Lors de son rapport annuel sur le travail du gouvernement en mai dernier, le Premier ministre, Li Keqiang, déclarait que 600 millions de personnes, soit près de la moitié de la population chinoise, vivent avec moins de 1000 yuan, 125 euros par mois. L'ancien directeur adjoint du Comité des affaires financières et économiques de l'Assemblée nationale populaire, s'appuyant sur ces chiffres, considérait quelques semaines plus tard qu'on ne pouvait pas affirmer avoir atteint la prospérité modérée dans ces conditions et s'interrogeait. Les Jeux olympiques de Tokyo ont été décalés d'un an. Pourquoi ne pouvons-nous pas déclarer avoir atteint notre objectif dans un ou deux ans ? Ces propos, devenus viraux sur l'Internet chinois, ont eu tôt fait d'être censurés. Au-delà de cette bataille des chiffres, la campagne contre la pauvreté pose d'autres problèmes, plus fondamentaux, notamment dans les zones habitées par les minorités ethniques, comme au Tibet ou au Xinjiang. Loin d'être une simple politique sociale, elle y est un aspect essentiel de la politique assimilationniste mise en œuvre par l'État parti et analysée par Mediapart à retrouver par un lien dans le corps du papier. Un nouveau rapport publié par Adrian Zen révèle que la lutte contre la pauvreté au Tibet va de pair avec le contrôle croissant sur le territoire tibétain et les modes de vie de ses habitants. Les rapports officiels sur l'avancée de la campagne stipulent que l'État doit cesser d'élever des gens paresseux. Le strict management de type militaire du plan de formation professionnelle doit permettre de renforcer la faible discipline au travail des Tibétains et réformer leur façon de penser arriérée. Dans la même veine, des plans encouragent les pasteurs et les fermiers à donner leurs terres et leurs troupeaux à des coopératives gouvernementales et à en devenir des salariés. Sous couvert d'augmentation des revenus, ces politiques de prétendue formation professionnelle visent en réalité à disloquer le tissu social, linguistique et culturel tibétain et à concentrer un peu plus le contrôle des ressources naturelles dans les mains des autorités locales. Au Xinjiang, la politique de jumelage d'un cadre avec une famille pauvre, caractéristique de la campagne contre la pauvreté dans l'ensemble du pays, a été un rouage essentiel pour étendre le contrôle du parti dans les zones rurales de la région autonome. Elle constitue le pendant personnalisé des camps de rééducation. Comme souligné dans un rapport de Human Rights Watch, publié sur le sujet en 2018, loin de se contenter d'aider les familles ouïghours à sortir de la pauvreté, ces cadres qui vivent au sein même des familles sont davantage là pour les surveiller, s'assurer qu'elles ont abandonné les pratiques islamiques, ont des bonnes pratiques hygiéniques ou encore ont appris les discours de Xi Jinping et sont fidèles au parti. La lutte contre la pauvreté a également servi de prétexte à l'envoi forcé d'Ouïghours dans des usines des provinces de l'intérieur, autre élément constitutif de la politique d'éradication des spécificités culturelles et linguistiques de ce peuple turcophone. Malgré des avancées dans la lutte contre la pauvreté, cette approche par la campagne caractéristique de la Chine maoïste, et dont le but principal reste de susciter l'obéissance et l'amour pour le dirigeant suprême, laisse au cadre la possibilité d'user de toutes sortes de manipulations et contournements de la réalité pour atteindre les objectifs fixés. Mediapart.